La première partie de l'entretien réalisé par Alexis Rosenzweig avec Harry Pollack, dont le livre autobiographique vient de sortir cette semaine à Prague aux éditions Mladá Fronta. Harry Pollack est né en 1923 dans une famille juive de Bohême dont il restait le seul survivant après la guerre. Parti en France juste après les accords de Munich de 1938, il s'est engagé très rapidement dans l'armée tchécoslovaque en exil.
Panorama.
Panorama.
Monsieur Harry Pollack, bonjour et merci beaucoup de prendre un peu de temps pour répondre à quelques questions. Si vous parlez aujourd'hui aussi bien le français, c'est parce que dans les années 30, à la fin des années 30, vos parents ont décidé de vous envoyer étudier en France, plus précisément à Nîmes, au lycée où étaient envoyés régulièrement des élèves de Tchécoslovaquie. Et vous êtes parti, si je ne me trompe pas, en 1938, dans un train. Vous arrivez à Nîmes après les accords de Munich et l'accueil en France est plutôt chaleureux.
Ah oui, c'était un peu étonnant parce que nous avons eu l'opportunité d'aller seulement un mois en retard parce que l'année scolaire a déjà commencé, mais à ce moment-là, il y avait des difficultés politiques. On croyait que peut-être les étudiants n'auront pas d'occasion d'y aller. C'est seulement avec un retard d'un mois. Et ce retard a accentué la chaleur de réception à Nîmes, où il y avait une foule de gens pour recevoir ces tchèques. Et c'était un accueil très cordial. Naturellement, pour nous qui étions là pour la première fois, nous avions peine de comprendre de quoi il s'agit, parce que la plus grande partie de nous avait le français seulement un an en classe, et alors notre facilité de comprendre les français n'était pas très bonne.
Vous comprenez déjà un petit peu le français au moment où la guerre éclate et vous comprenez déjà ce qui se passe autour de vous et vous décidez, âgé seulement de 17 ans, de vous engager dans l'armée tchécoslovaque en exil en France à ce moment-là.
C'est juste. Vous savez, à ce moment-là, l'atmosphère politique était que la guerre va être finie dans 3 ou 6 mois. Alors, je voulais contribuer un peu dans notre effort contre l'Allemagne avant que la guerre soit finie. Et quoique j'étais seulement 17 ans, on m'a accepté dans l'armée tchèque constituée en France, et dont les membres étaient d'une part les réfugiés de Tchécoslovaquie, singulièrement des officiers d'armée, et la plus grande partie c'était des résidents tchèques qui travaillaient en France et qui avaient le choix ou bien de joindre l'armée française ou l'armée tchèque, et qui se sont décidés de joindre l'armée tchèque, qui comprenait à ce moment à peu près 3000 soldats et 2 régiments.
Vous les rejoignez à Agde, où il y a le quartier général de cette armée en exil, et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là?
Le centre de cette armée tchèque en France était à Agde, et c'était là où on faisait l'entraînement, et c'est de là que les 2 régiments entraînés ont parti à la défense de la France, au nord de la France.
Vous êtes parti également dans le nord de la France avec ces régiments?
Non. J'étais seulement à Agde, je faisais l'entraînement. Et à ce moment-là, la France a capitulé. Et alors, on nous a évacués d'Agde à Sète. Et avec un navire pour charbon, qui livrait charbon à Marseille, était de retour, qui avait un complément de 12 personnes et accommodation pour 12 personnes. On a embarqué 1500 soldats et nous a transportés pendant 3 jours jusqu'à Gibraltar.
Jusqu'à Gibraltar, d'où donc territoire britannique, et de là on vous a embarqué sur un autre bateau.
Oui, mais ces 3 jours c'était terrible. Il n'y avait pas de nourriture et particulièrement il n'y avait pas d'eau. Et c'était en juin, il faisait chaud. Et lorsque nous sommes arrivés à Gibraltar, nous étions plutôt nègres que blancs de la poudre de charbon qui était partout.
On vous embarque à ce moment-là tous ces soldats tchécoslovaques de Gibraltar sur un bateau qui part, vous ne savez pas vraiment où, et vous arrivez sur les côtes anglaises au terme d'un voyage assez périlleux puisqu'il y avait des sous-marins allemands qui menaçaient tous les bateaux qui passaient par là. Vous arrivez à Liverpool.
Nous arrivions à Liverpool, mais nous savions pas ce que c'est parce qu'à ce moment-là, toutes les destinations, des placards de destination étaient remués pour confondre une invasion. On nous a transportés à Cholmondeley. C'était un grand parc où on nous a aménagé sous des tentes où l'armée s'est réorganisée parce que les gens arrivaient de différents ports et c'était là où on nous a donné des uniformes anglais et des couvertures, le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner servi normalement, ce qui n'était pas le cas pendant mon séjour dans l'armée française.
On a parlé, surtout dans la presse tchèque d'ailleurs, de cette époque et notamment de conflits au sein de cette armée tchécoslovaque en exil, des conflits qui ont tout de suite éclaté avec des divisions assez sérieuses entre soldats. Quelle est votre explication de ces divisions à l'intérieur de cette armée en exil?
Vous savez, dans cette armée, il y avait un nombre supérieur d'officiers. En Angleterre, en tout, l'armée comprenait à peu près 2500 personnes, dont 800 étaient des officiers de profession. Et ces officiers de profession avaient une culture spéciale. Ils devaient se réfugier de Tchécoslovaquie parce qu'ils ne pouvaient pas trouver un emploi. Par éducation et par ils n'avaient pas d'emploi. Et en arrivant en France et puis en Angleterre, ils avaient une existence assurée, mais ils n'avaient pas de but, seulement une toute petite partie était employable dans cette armée. Parce qu'il y avait trop peu de soldats et trop d'officiers. Et le niveau culturel de ces gens-là n'était pas très haut. Et je crois qu'ils avaient envie, qu'ils enviaient des gens qui pouvaient écrire et qui ont appris la langue anglaise et qui savaient se débrouiller. Alors, ils ont fait la vie de gens comme moi aussi difficile que possible. Et ce qui était plus mauvais, c'est qu'ils le faisaient sans avoir aucun avantage. Ils ont fait de mauvais foi et de haine. C'était un très mauvais temps. Mais en arrivant en Angleterre, j'ai pu compléter mon éducation française, c'est-à-dire mon baccalauréat que j'aurais fait à Montpellier n'était pas possible parce qu'à ce moment-là, j'étais déjà dans l'armée. Tous mes papiers étaient à Avignon déjà. Mais je ne pouvais pas faire les examens. Alors j'ai trouvé moyen de le faire à l'école française à Londres.
Au lycée français de Londres.
Oui, et j'ai un baccalauréat, mention bien, la seule mention bien dans cette session à Londres. Et à ce moment-là, j'ai trouvé l'amitié d'une famille Smeyers qui était parti de la
du gouvernement en exil.
Pas du gouvernement, mais de l'appareil du gouvernement. Et ils avaient deux filles dont l'aînée est devenue ma bonne amie, et j'étais invité dans cette famille pendant un certain temps avant qu'elle m'a rejeté. J'étais accepté dans cette famille, ce qui était un très bon opposé aux conditions dans l'armée.
À quel moment, vous avez un souvenir du moment où vous apprenez, peut-être par des rumeurs au début, le sort réservé aux Juifs dans les territoires conquis par l'armée allemande?
On n'avait pas beaucoup de renseignements là-dessus, et je crois que personne vraiment n'a pas insisté de savoir trop, parce qu'on avait peur d'apprendre la vérité, et la vérité aurait été beaucoup plus pire qu'on s'imaginait.